Vous écoutez France Culture, vous faites bien, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous revenez sur les révélations du New York Times confirmant le sort réservé aux Ouïghours en Chine.
Oui, le quotidien américain a publié le week-end dernier quelques 400 pages de documents internes au Parti communiste chinois, des fuites provenant d'un membre de très haut niveau du parti qui leur a demandé évidemment de rester anonyme. Il dit espérer que grâce à ces révélations, les leaders du parti ne pourront pas échapper à leur responsabilité dans la répression d'un million de Ouïghours et de Kazakhs, les musulmans du Xinjiang, province chinoise qui jouxte tout à la fois le Pakistan, l'Afghanistan et l'Asie centrale. Alors il a déjà été question sur France Culture de ce que ces documents révèlent à nouveau du programme concentrationnaire de Pékin vis-à-vis des Ouïghours. Nous allons tenter ce matin de décrypter ce qu'ils disent aussi du pouvoir de Xi Jinping, ultra centralisé, mais beaucoup moins incontesté qu'il voudrait le faire croire. Bonjour Nicolas Béclin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur pour l'ONG Amnesty International qui travaille depuis très longtemps sur cette crise. Vous êtes directeur régional pour l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Donc ça fait très longtemps que vous travaillez vous-même sur la répression dont font l'objet les musulmans du Xinjiang. Alors pour entraîner les responsables locaux du Parti communiste dans son programme de répression des Ouïghours, Xi Jinping a d'abord voulu les convaincre de leur dangerosité et un attentat a justement eu lieu lors de son premier séjour dans la région en 2014. Qui sont ces militants ouïghours, comme l'écrit toujours le New York Times? Est-ce que ce sont des djihadistes liés de près ou de loin aux islamistes des pays limitrophes, comme le dit le président chinois?
La région du Xinjiang a pendant très longtemps été sujette à des incidents violents, souvent par des militants locaux, souvent par des groupes qui avaient des conflits avec la politique religieuse du Parti communiste. Mais il y avait également un élément djihadiste qui naît dans les années 80 lorsque la Chine soutient les moudjahidines en Afghanistan contre le grand frère russe. Et ces moudjahidines ouïghours reviennent à la fin des années 80, début des années 90 et essayent d'importer leur version de l'islam militant au Xinjiang. Ça a conduit à une série d'attentats et de manifestations au Xinjiang qui seront réprimées dans le sang. Depuis, les politiques de la Chine au Xinjiang provoquent très souvent des conflits, des affrontements, des attaques, sans qu'il y ait vraiment une résistance organisée ou un parti religieux qui puisse mobiliser de nombreuses personnes. Mais néanmoins, pour le Parti communiste chinois, toute forme de challenge à son autorité au Xinjiang n'est pas permissible. Et donc, après le 11 septembre, la Chine opère un grand revirement dans sa communication publique par rapport à la répression au Xinjiang, justifiant cette répression par le combat contre le terrorisme. Xi Jinping lui-même reprend cette ligne pour justifier un nouveau tournant dans la politique par rapport au Xinjiang qui est censé clore le chapitre de l'assimilation du Xinjiang à la Chine et du retrait de toute opposition par les Ouïghours ou les autres minorités ethniques du Xinjiang à la politique chinoise dans cette région, surtout au moment où il lance cet énorme programme de projection de puissance de la Chine à l'étranger, qui sont les nouvelles routes de la soie. Donc ce réseau commercial, d'investissement, de transport qui lie la Chine au reste du monde.
Nicolas Béclin, c'est vrai qu'au départ, on dispose désormais de certains discours de Xi Jinping aux officiels du Xinjiang. Ce sont les fuites du New York Times qui nous permettent d'avoir accès à ces discours. Et au départ, il ne parle que de ces extrémistes ouïghours, ceux qui commettent des attentats. C'est contre eux qu'il faut se montrer sans pitié. L'expression a été reprise partout dans les journaux, mais sans préciser qu'au départ, elle se destine seulement également à ceux qui commettent des attentats, qui sont armés. Et le président chinois encourage les officiels à ne pas discriminer les Ouïghours, à respecter leurs droits du culte. Il rejette aussi, c'est très surprenant de lire dans certains discours, des propositions qui lui sont faites d'éliminer entièrement l'islam de la Chine. Et ne parle jamais de détention de masse. Alors est-ce qu'au départ, on peut imaginer qu'il y a eu une sorte de mouvement de zèle de la part des responsables locaux Ouïghours qui ont commencé à construire des camps d'internement ?
Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Chine et dans la politique de la Chine au Xinjiang, la définition du terrorisme est extrêmement lâche. Donc c'est une définition qui est très différente de celle qu'on aurait dans les standards internationaux, puisqu'il y a un continuum entre ce que le parti appelle le séparatisme, l'extrémisme religieux et le terrorisme. Donc depuis des années, effectivement, utiliser le prétexte du terrorisme pour mener la répression au Xinjiang a été la justification principale du parti. Je pense que ce qu'on voit au moment où Xi Jinping prend en charge les affaires au Xinjiang, c'est un nouveau modèle qui ne vise pas simplement à essayer d'identifier les gens qui pourraient être identifiés comme subversifs ou comme résistants à la politique du parti, mais véritablement un système de contrôle total, où il faut contrôler toute la population musulmane, toute la population ouïghour. Et effectivement, la façon dont elle est appliquée au niveau local reprend les directives centrales, mais avec une forme de brutalité qui n'est pas nécessairement dans le dessein des autorités centrales. Néanmoins, il est très clair que c'est une politique centrale qui est initiée par Xi Jinping. Et pour ce faire, il va appeler le secrétaire du Parti communiste, le numéro 1, de la région du Tibet, Chen Xuanguo, qui a mis en place au Tibet, après les émeutes de 2008, avant les Jeux Olympiques, un système qu'ils appellent un système de maillage social de la région, avec un énorme contrôle policier et social, l'utilisation de l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, etc. Et il l'amène au Xinjiang pour être le numéro un et pour appliquer cette politique qui est vraiment une politique de remodelage en profondeur de la société ouïghour, de surveillance totale et de demande d'obéissance au parti et à l'État qui ne souffre aucune exception.
Et vous connaissez bien ces méthodes, Nicolas Béclin, parce que vous avez aussi travaillé au Tibet et vous avez pu voir comment elles étaient appliquées dans cette région par ce responsable qui ensuite a été envoyé au Xinjiang. Est-ce que vous avez été surpris par ailleurs par les documents qui révèlent la résistance de nombreux officiels chinois sur le terrain, avec ce portrait intéressant par exemple de Wang Yongzi, homme dont on dit qu'il ressemble à un technocrate du parti. C'est un responsable chevronné, d'abord soucieux d'appliquer les directives de Xi Jinping, et puis qui en fait dont on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il va faire libérer les personnes qu'il interne dans les camps qu'il a construits.
Oui, je crois que c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir un niveau de détail sur l'application de politiques dans les zones de minorité et ailleurs, puisque le système de contrôle de l'information en Chine est sans pareil dans le monde. C'est un internet contrôlé, c'est un système de distribution de l'information extrêmement régimenté. La plupart de l'information et des documents qui sont internes à l'administration, au gouvernement et bien sûr au Parti communiste lui-même sont classifiés, sont des documents secrets. Donc c'est effectivement intéressant de voir que au niveau local, il y a des cadres chinois. Donc Wang Yongzhi est un cadre chinois opérant dans une région très très majoritairement ouïghour, et qui sont effectivement, qui semblent d'abord avoir une conscience, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose de troublant à incarcérer des milliers de personnes dans l'unité administrative qui dirige. Il a été en charge de construire un camp de 20 000 personnes et qui effectivement exprime en privé ses doutes face non seulement à la la légitimité de ces politiques, mais aussi à leur efficacité. Il y a des cadres au Xinjiang chinois qui effectivement recommandent une approche plus douce et qui ne voient pas la nécessité de procéder à ces incarcérations de masse qui sont vraiment sans précédent ni dans l'histoire récente du Xinjiang ni dans le monde. Il n'y a pas d'État à travers le monde qui incarcère une minorité ethnique à cette échelle sans aucun instrument juridique, sans justification, simplement pour essayer de réformer la façon dont les gens pensent. Xi Jinping lui-même décrit l'opposition au parti, le respect pour la religion musulmane comme des virus qu'il faut éliminer, comme des maladies dont on doit guérir de force cette population. Donc vraiment un retour ou un peu à l'idéologie totalitariste de sous Mao Zedong, où on pensait pouvoir faire un homme nouveau en emmenant les gens dans les camps et en les soumettant à l'idéologie du parti.
Voilà, on voit que plus de 12 000 enquêtes ont été menées sur des responsables politiques du Xinjiang, dont certains avaient par exemple encouragé le parti à lire le Coran, tout simplement pour mieux comprendre les traditions ouïghours. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Béclin d'avoir été avec nous. Nous mettons en ligne sur la page de l'émission Les Enjeux Internationaux, à la fois les liens vers l'enquête du New York Times, vers les travaux d'Amnesty International et vers l'enquête que Libération a signée aussi il y a quelques jours sur la surveillance par Pékin des Ouïghours de France. Enquête signée Hugo Boursier et le collectif Focus Photo Sadak Souci. Merci beaucoup Nicolas Béclin, bonne journée à vous et je remercie aussi Marine Beccarelli pour m'avoir aidé à préparer l'émission cette semaine.